Oh Bertrand, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue Bertrand, fidèle des GG. Qu'est-ce que vous en dites Bertrand, vous?
Ah ben c'est un sujet poignant, hein. Moi je me fais enguirlander par ma famille parce que ça fait 25 ans que j'ai un couteau sur moi. J'ai été dans le domaine des chevaux, je suis dans le champagne maintenant. C'est un réflexe, hein. C'est un peu un réflexe franchouillard, mais moi je suis pas issu d'endroits de bagarre, donc même dans des situations graves, j'ai jamais eu à penser à m'en servir.
Et vous sert à quoi votre couteau alors?
Il me sert tous les jours à ouvrir des cartons, à couper des sangles,
oui, il va me servir
à couper un saucisson dans le vignoble quand on emmène les clients. C'est un outil, mais c'est un outil que j'ai depuis longtemps parce que c'était un réflexe de travail. Et je me suis
c'est
fait,
quoi, c'est genre un opinel fait...
C'est plus un bon couteau qui ressemblera à un couteau pliable, hein, mais un D'accord. petit peu plus gros qu'un opinel.
D'accord.
Voilà. Moi, j'ai été formé aux arts de combat sur le combat russe, qui est un peu du Krav Maga, et puis ces choses-là. Quand on se retrouve, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en situation de bagarre, parce que j'ai eu des métiers différents. Quand on n'est pas taillé pour ça, on pense même pas à sortir quelque chose, même si vous avez un bâton. Un nunchaku, n'importe quoi. Je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas culturel. Chez moi, en tout cas, j'ai été élevé par quelqu'un qui me disait que ça fallait pas taper quelqu'un. Sauf que le jour où on se retrouve en situation compliquée, vous parliez de Lille. Moi, j'ai ma belle-fille qui a été embêtée pendant plus d'un quart d'heure dans le métro. Personne n'a bougé autour. Moi, je lui ai conseillé de prendre une bombe lacrymogène. Donc, si demain elle se retrouve avec une amende de 500 €, moi je m'en fiche, à la limite moi je la paierai et puis ça m'empêchera pas d'eux. Mais ceux qui veulent se servir d'un couteau, ils s'en serviront. Donc je pense qu'il faut déjà faire des contrôles et plus de contrôles parce qu'il y en a pas. Moi demain un gendarme vient me contrôler, je vais avoir la honte de ma vie parce qu'il va me faire la leçon. Mais bon, est-ce que ça m'empêchera ou pas?
Mais est-ce que cette menace d'amende va vous faire changer d'habitude? Est-ce que vous allez laisser votre couteau à la maison? Non.
Non. Non, la menace qui m'embête plus, et on est dans des endroits où il n'y a pas de problème. Donc qu'ils fassent des contrôles dans des endroits où il y a des problèmes, je veux bien croire. Moi, la menace qui me fait peur, c'est un jour de croiser quelqu'un qui va attenter à la vie de ma famille ou des gens qui me sont proches ou dans l'endroit où je suis. Et moi, je suis plus ce qu'on peut appeler un sentinelle, on appelait ça dans notre métier. À la limite, moi, j'irai peut-être plus facilement vers la défense des autres, mais d'autres personnes, même quelqu'un qui descend de son camion, qui a passé sa journée dans le vignoble, il a un couteau, il s'en servira même pas pour se battre. La personne qui le fera, il est dans cette ambiance-là. Il est dans.
Non, vous êtes en train de dire qu'il faut que les contrôles de police se fassent avec discernement. C'est-à-dire qu'on n'emmerde pas les gens qui ont un couteau parce que c'est un outil de travail, etc. Et qu'on s'en prenne aux bonnes personnes.
C'est exactement ce qui se passe déjà aujourd'hui, Olivier.
Voilà.
Et surtout, face aux policiers qui te contrôlent, tu dois être en mesure de justifier le transport légitime de ton couteau. Si t'as une bonne explication, le policier, il te laissera partir. Et ensuite, il y a un truc qu'on pratique assez peu dans notre justice et dans notre façon de traiter la délinquance, c'est de cibler les endroits pour un contrôle, les endroits où il y a beaucoup de rixes au couteau. Et je suis pas sûr qu'à Châlons en Champagne, là où va Bertrand, il y a beaucoup de problèmes avec des couteaux.
Non.
En revanche, je le disais tout à l'heure, à Châtelet-Léal, toutes les semaines, il y a des rixes au couteau, et donc je pense que c'est là où on doit faire des contrôles réguliers pour
Et l'amende chez un jeune de 17 ans, l'amende de 500 € qu'il ne paiera jamais, sincèrement, est-ce que c'est dissuasif? Alors on va lui confisquer son couteau, mais sincèrement, est-ce que ça veut dire qu'on a réglé le problème?
C'est-à-dire que l'enjeu, c'est qu'il la paye un jour. C'est que ça le suive et que son premier salaire, ça lui soit prélevé dessus.
Ça sera jamais
l'État est parfaitement au
courant. On le fait pour des amendes. Attends, ils le font pour des amendes RATP. S'ils peuvent pas le
mais
faire
c'est jamais
pour
recouvert.
Ça.
Enfin, vous vivez dans quel monde?
Ceux
qui payent les amendes, c'est entre guillemets, c'est les honnêtes gens qui à un moment donné ont oublié leur ticket de métro.
Oui.
Ceux qui sont les fraudeurs professionnels ne payent jamais d'amende.
Bah, les trésors publics, quand ils te.
Mais t'es insolvable. T'as 16 ans.
T'es insolvable. Mais je veux dire, un jour t'auras un salaire.
Tu crois que les trésors publics va te retrouver 10 ans après?
Ou alors les parents.
Responsabilité parentale.
Les parents.
Ouais, ou alors les parents. Mais tout.
Pardon, mais vous vivez pas dans la réalité. Allez voir précisément le recouvrement des amendes, ceux qui payent. Et les amendes, c'est ceux qui, en gros, c'est les honnêtes gens qui, une fois de temps en temps,
mais Olivier,
ne payent pas.
Tout l'enjeu de cette amende forfaitaire, c'est comme l'amende forfaitaire pour le fait d'avoir de la drogue sur soi, c'est de rendre plus certaine la peine. aujourd'hui, ça doit être présenté à un magistrat, ça prendra des plombes, et la peine est parfaitement incertaine. Là, le seul intérêt que je vois d'une amende forfaitaire, c'est de la rendre certaine. C'est tout de suite, t'es pris, t'as une amende forfaitaire.
Christophe, je vous remercie d'avoir été, pardon, Bertrand, je vous remercie d'avoir été avec nous, Bertrand.
Merci beaucoup.